Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère sur le 88.4. Vous écoutez l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs engagés des transitions environnementales et solidaires. Nous sommes le mercredi 15 février 2023 et nous sommes en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain, jeudi 16 février 2023 de 9h à 10h. Ainsi qu'en podcast sur internet sur radiogalère.fr. Je suis Marin et accompagné en studio par Chloé.
Bonsoir.
Bonsoir Chloé. Et ce soir, nous recevons Thomas Croisé de Tout en Vélo.
Salut Marin, salut Chloé.
Bonsoir Thomas. Avant de te donner la parole, je vais présenter un petit peu Tout en Vélo pour que nous puissions donner à nos auditrices et nos auditeurs la possibilité de te connaître un petit peu, puis ensuite tu pourras étayer davantage, bien évidemment. Tout en Vélo, c'est sur mesure et engagé dans un projet coopératif de cyclo-logistique qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire de la transition écologique. Vous êtes né à Rennes en 2012 et vous proposez des solutions de cyclo-logistique qui sont à la fois des logiciens du vélo, des fabricants de remorques à vélo et des revendeurs de vélos cargo. Tout en Vélo et SEM, également un modèle de franchise, et on aura l'occasion d'en reparler, dans différentes villes de France. Et vous intervenez principalement dans les territoires qui sont contraints par les zones à faible émission, les ZFE, on aura aussi l'occasion d'en reparler, avec pour objectif de proposer des solutions de mobilité douce et compatibles avec les enjeux sociétaux qui sont environnementaux, sociaux et économiques actuels. Voici la présentation donc un peu général de Tout en Vélo. Mais avant vraiment de pouvoir présenter cette émission, ce que vous faites, ce qu'on aime bien, c'est de pouvoir présenter des parcours, Thomas, et de pouvoir, l'espace de 5 minutes, donner à nos auditrices et nos auditeurs la possibilité de se plonger dans une trajectoire qui est celle de l'invité que l'on a. Et donc, je te laisse un petit peu dire qui tu es et puis nous dire aussi ce qui t'a amené à t'engager dans Tout en Vélo.
Ok, alors du coup moi je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans, ça fait 7 ans que j'habite à Marseille. J'ai une formation d'ingénieur à la base, donc j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle AgroParisTech. Et j'ai fait une spécialisation en dernière année d'école en économie de l'environnement, ce qui m'a amené à étudier des sujets du genre chiffrer le coût de la pollution pour la société. Quelles sont la valeur des services écosystémiques, ce genre de sujet. Et du coup, je suis arrivé à Marseille après pour faire un travail dans un bureau d'études en aménagement, transport, environnement. Donc moi, j'étais dans une équipe qui travaillait sur des projets d'infrastructure, pas mal de transport, et je m'occupais des ce qu'on appelle les études socio-économiques de projets d'aménagement, de projets d'infrastructure. Donc pour donner un exemple, une collectivité quelconque veut ramener un tramway dans un quartier quelconque, aujourd'hui mal desservi par du transport en commun. On va demander du coup de faire une étude sur comment les gens vont se déplacer avant le tramway, comment les gens se déplacent avant le tramway, comment les gens vont se déplacer après l'arrivée du tramway. Tout l'objectif, c'est de dire on va essayer de faire en sorte que les gens se déplacent moins en voiture, puisque ça va limiter les coûts liés à l'utilisation de la voiture, donc pollution, bouchons, etc. Et donc ça, ces coûts, on essaye de les évaluer pour faire un argument de plus pour faire ce projet d'infrastructure qui coûte assez cher à la collectivité. Voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et du coup, après, ça m'a amené à bosser sur pas mal de questions. Alors, ouais, j'ai mal placé le micro, c'est mieux comme ça. Ok. J'ai pas mal bossé sur des sujets de mobilité, du coup, en ville, enfin sur des territoires denses. Et l'objet vélo est un objet de mobilité qui apparaît souvent dans les études. Et c'est quelque chose qui me bottait bien. J'aimais beaucoup parler de la question vélo. Ce qui m'a amené à me réorienter et du coup monter une structure avec une collègue liée autour de donc Tout en Vélo, autour de la livraison à vélo sur Marseille.
Ce qui est intéressant, c'est que à t'écouter, il y a finalement une suite assez logique dans ton cheminement qui finalement est venu au fil des travaux, de tes études et puis ensuite de tes engagements, t'a amené assez finalement naturellement vers le fait que tu sois aujourd'hui le responsable de Tout en Vélo. Là où typiquement, parfois, on a des acteurs, des actrices qui arrivent et qui racontent une transition qui a pu être un peu brutale, le pas de côté, une prise de conscience. J'ai l'impression que toi, c'est quelque chose qui était là depuis plus longtemps.
Oui, alors après, bon, je t'avoue que ce storytelling, il est un peu travaillé aussi, tu vois, pour essayer de raccrocher un peu certains wagons dans un parcours qui, parfois, enfin, on peut faire des choix qui peuvent pas forcément paraître logiques, mais on arrive toujours à trouver une logique. Pour le coup, l'aspect vélo et mobilité urbaine, enfin, en tout cas, comment les gens se déplacent au sein des territoires, ça, c'est un truc qui m'a toujours animé depuis petit, et du coup... d'en faire son travail, oui, c'était quand même un truc qui me tentait bien. Oui.
Et alors, concrètement, comment est-ce que tu travailles désormais sur ces questions de mobilité urbaine et de vélo avec Tout en Vélo ?
Donc, comme tu l'as dit dans la présentation, Tout en Vélo, donc, c'est une entreprise coopérative. Donc, on a un format juridique particulier qui est la SCOP, Société Coopérative. Et on fait de la cyclo-logistique. Donc, c'est un mot assez jeune, puisque c'est un métier assez jeune, au final, la cyclo-logistique. Mais bon, étymologiquement, c'est pas trop compliqué à comprendre. On fait de la cyclo, donc on a un vélo, logistique, on fait de la logistique. Donc, on livre des marchandises à vélo. Donc, du coup, après, dans la cyclo-logistique, il y a différents secteurs d'activité. Il y a tout ce qu'on appelle la gestion du dernier kilomètre. Donc, en fait, c'est livrer des colis chez le client final. Qui est souvent, alors qui dans le cas de la ville de Marseille, du coup dans des territoires, dans le centre-ville par exemple, c'est une problématique assez importante pour les acteurs classiques du secteur, qui sont ce qu'on appelle les transporteurs, donc les grands groupes de livraison qui du coup ont des solutions pas mal véhicules motorisés, et du coup ils galèrent pas mal à livrer le centre-ville. Donc nous on fait la gestion du dernier kilomètre à vélo. On fait ce qu'on appelle la gestion du premier kilomètre. Donc là, pour le coup, on va chez le client, on récupère quelque chose, une marchandise. Alors, c'est souvent un déchet, d'ailleurs. Et on ramène chez notre prestataire, chez notre client, pardon. Donc, on a le dernier kilomètre, le premier kilomètre. On voit qu'en fait, ça fait une boucle, d'ailleurs. Donc, c'est la boucle logistique. Donc, tout l'idée dans le métier, c'est de réussir à gérer les deux, dernier kilomètre et premier kilomètre en même temps. C'est l'idéal. Et ensuite, on a des métiers qui sont liés du transport de charges lourdes. On fait notamment des déménagements à vélo dans Marseille. Donc peut-être que vous nous avez déjà vus, on arrive en petit convoi, on est 4-5 avec nos vélos remorques. Et du coup, on va déménager des appartes. Donc ça peut commencer du T1, mais ça va jusqu'au T4. La seule limite qu'on a, c'est la distance. Donc évidemment, on ne déménagera jamais un client qui va aller à Aix, par exemple, en partant du Cama. Mais par contre, quelqu'un qui... part du Camargue qui veut aller à la plaine, et ben ça, il n'est pas obligé de le faire en camion, il peut le faire en vélo. C'est un métier qu'on fait. Et puis enfin, dernier métier, c'est on a des actions de formation autour de la cyclo-logistique, vu que c'est un métier assez jeune et que nous, du coup, ça fait 3 ans et demi qu'on fait ce taf-là. Du coup, on a quand même une expertise, une expérience là-dedans. D'autant plus que livrer à vélo, c'est une chose, livrer à vélo dans Marseille, ça en est une autre. Et que du coup, on fait des formations autour de cette activité-là. Ouais.
Ok. Et alors, tu parlais vraiment de cette partie, donc cyclo-logistique, de la logistique avec des vélos. Comment est-ce que tu organises, en fait, tout... J'imagine que... Enfin, comment tu organises ça ? Parce que c'est des convois que tu dois envoyer à un endroit, que tu dois ramener quelque part d'autre, que tu dois gérer des équipes, quelles que soient les conditions aussi, j'imagine, à la fois de forme des personnes qui travaillent dans ton équipe et puis le climat extérieur. Comment est-ce que tu mènes ça de front ?
Alors en fait, on est structuré comme une entreprise de livraison classique, c'est-à-dire qu'on a, des personnes qui sont sur le terrain, qui vont être ce qu'on appelle en production, qui vont livrer, collecter. On a un rôle clé au sein des structures logistiques et au sein de Tout en Vélo Marseille, mais comme dans toute structure de cyclo-logistique, qui est le rôle de responsable d'exploitation, qui est le dispatch en anglais, qui va du coup lui arbitrer au quotidien qui va où et qui fait quoi. Et en fait, ce rôle-là est clé puisque c'est la personne qui va organiser les tournées pour qu'elles soient le plus optimisées possible, qu'on passe le moins de temps sur le vélo possible. Et du coup, ce n'est pas moi qui ai ce rôle-là, par exemple. Moi, j'ai juste le rôle de gérant. Mais du coup, on a, en gros, nous, on a La veille, on a le responsable d'exploitation qui va faire l'organisation de la journée du lendemain. Et du coup, chaque personne sait le soir, du coup, quel va être son programme pour la journée. Et ensuite, on a ce qu'on appelle de l'imprévu qui tombe le jour J. Donc, c'est des appels de clients qui ont besoin d'une course, souvent rapidement d'ailleurs. Et du coup, ça, c'est le responsable d'exploitation qui va arbitrer et qui va appeler un tel ou un tel et lui dire, bah, c'est toi qui vas faire cette course et il faut la faire dans les 2 heures. Est-ce que tu peux ? Oui, non. Oui, ok, tu y vas. Tu peux pas ? Bah, tu demandes à quelqu'un d'autre.
Ok. Et alors, au total, combien vous êtes et quelles sont les fonctions de chacun, chacune ?
Aujourd'hui, on est 6 dans la structure, 6 salariés. On est structuré, alors 6 salariés qui représentent 5 équivalents temps plein aujourd'hui. On est structuré à 2 personnes et demie, si je peux parler comme ça, qui sont en production pure, donc à livrer en vélo. On a une personne qui est à la charge de responsable commercial, donc qui va s'occuper d'aller démarcher de la clientèle. Et leur dire de plutôt que de livrer en camion, en fait, le vélo, parce que c'est mieux. Mais voilà, il va expliquer pourquoi. Et il va essayer de nous vendre bien. on a une personne qui va s'occuper du responsable d'exploitation. On a une personne qui s'occupe aussi de l'entretien de la flotte de véhicules. Donc, on a un gros sujet, nous, où les vélos donc, chargés et sur la voirie marseillaise se prennent cher, pour le dire. Comme ça, du coup, il y a un gros sujet d'entretien du matériel. On a beaucoup de casses et donc, du coup, on a une personne qui a mis temps à l'atelier, du coup, à l'entretien de la flotte. On a aussi une partie communication, donc animation des réseaux sociaux, production de visuels de communication. Voilà. Puis après, il y a la fonction de gérance. Alors, il y a la fonction de RAF, c'est un mot que j'ai appris, responsable administratif et financier, donc ça c'est la compta en gros, c'est moi qui fais ça. Et après il y a tout l'aspect gestion d'équipe. Aujourd'hui on est c'est ça nos rôles. Après on est tous un peu sur le vélo, il y en a qui sont plus sur le vélo que d'autres, mais il y a toujours une volonté quand même de toujours livrer quand on peut. Alors déjà parce que l'activité parfois peut être organisée qu'on n'a pas le choix et qu'il faut prendre le vélo pour aller livrer. Puis après, il y a, en tout cas moi, c'est vrai que maintenant je passe moins de temps sur le vélo, mais ça me fait toujours du bien en fait de me remettre sur le vélo, d'aller livrer, parce que c'est ça la réalité du métier en fait, c'est de faire du vélo dans Marseille.
Et est-ce que c'est des vélos électriques ou c'est des vélos non électriques ?
Alors on est sur du vélo assistance électrique. Puisqu'en fait on va déplacer des charges assez lourdes par vélo, donc nous on est équipé en vélo assistance électrique sur lesquels on va atteler des remorques de transport, donc remorques qui sont fabriquées par nos collègues de Tout en Vélo à Rennes. Et par remorque on peut charger jusqu'à 300 kg de matériel, donc on est quand même sur un poids assez conséquent pour transporter ça à vélo, donc il nous faut du vélo assistance électrique. Donc on est sur du vélo haut de gamme aujourd'hui avec des puissances moteurs et des couples moteurs. On essaye qu'ils soient les plus performants aujourd'hui du marché.
Et vous pouvez intervenir sur une zone à partir de jusqu'à combien de kilomètres sur la ville de Marseille ?
Alors aujourd'hui, on ne s'interdit pas d'aller dans tout Marseille. On va dans tout Marseille. Voilà. On aime bien dire qu'on livre de l'Estac au Goude en passant par la Valentine. Pour dire aux clients qu'en gros, s'ils ont un besoin vraiment urgent pour aller livrer à l'Estac au Goude, on sait le faire, on saura le faire.
Donc c'est un territoire assez large.
Oui, après, c'est vrai que 80% de notre activité est plutôt localisée dans, alors pas l'hypercentre, mais centre-ville élargi. En gros, c'est la fameuse zone à faible émission qui a été tracée par la métropole Aix-Marseille-Provence. En gros, ça part de Plombières au nord et ça va jusqu'au Prado sud, au sud. Et ça passe par Sacacchini sur l'est. En gros, toute cette zone-là, on a 80% de notre activité qui est localisée là-dedans.
Et du coup, le client, il est facturé en fonction du poids et de la distance ? Il est facturé de quelle manière ? Un ordre d'idée ?
Il y a différents types de tarification. Les critères importants à prendre en compte, c'est en effet la distance qu'on va faire pour livrer la marchandise, le poids de la marchandise. On a ce qu'on appelle aussi le délai de prévenance. Donc, si on est prévenu 48 heures avant, on sait gérer. Si on est prévenu 2 heures avant, on met un coût supplémentaire. Il y a ce qu'on appelle la précision, c'est-à-dire que parfois, nous, généralement, ce qu'on vend à nos clients, c'est on va vous livrer sur des créneaux de demi-journée, donc le matin ou l'après-midi. Si le client a besoin d'un créneau plus précis, genre il faut livrer entre 9h et 10h, ça on sait faire, mais c'est plus cher, c'est de la précision. Voilà, après il y a d'autres critères qui entrent en compte, hein, si c'est avant 7h du matin, si c'est après 21h, enfin ce genre de truc.
Alors là, je vais juste te demander de préciser un terme que tu as employé tout à l'heure pour pouvoir donner à nos auditeurs et auditrices une précision de vocabulaire. Tu as parlé de la zone à faible émission, la ZFE. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
Oui, alors c'est un outil réglementaire qui est mis en place par la métropole Aix-Marseille-Provence qui a plusieurs objectifs. Le premier, j'imagine que c'est le principal, c'est pour améliorer la qualité de l'air dans la zone couverte par la zone à faible émission.
Ce qui est tout à fait d'actualité en ce moment.
Tout à fait. Et du coup, pour faire ça, les pouvoirs publics mettent en place une zone qui va restreindre l'accès à cette fameuse zone à faible émission en fonction de la motorisation des véhicules. Et donc, en gros, plus ton véhicule est polluant, plus ça va être compliqué de circuler dans cette zone. Donc c'est un outil réglementaire qui a été mis en place en septembre 2022 et qui est progressif en termes de contraintes. Et donc chaque année, aujourd'hui, c'est tous les véhicules de la vignette critère 1 à 4 qui peuvent rentrer tranquillement dans la ZFE. Mmh. Et chaque année, il y a une marche de la vignette critère en fait, qui va être supprimée. Donc dans un an, il n'y aura plus que les véhicules de la vignette critère 1 à 3 qui pourront circuler. Donc on parle beaucoup de ces zones à faible émission pour le transport des personnes et des particuliers, puisque c'est un vrai sujet. On en parle souvent moins, ou peut-être qu'on voit moins le lien avec le transport de marchandises. Mmh. Or, c'est un enjeu très très fort dans les centres-villes et dans les zones couvertes par les zones à faible émission, puisque les professionnels de la logistique doivent du coup s'adapter. Ouais. Donc on a cette contrainte réglementaire qui arrive.
Ce qui est bien, c'est que par ce dernier point, tu nous permets de faire la bascule vers la nouvelle partie des missions qu'on va aborder maintenant, qui est un peu la projection d'imaginaire actuel et de futur de ce qui peut être possible en matière de mobilité douce, avant de parler de questions de travail un peu plus tard dans l'émission. Et donc là, tu disais qu'il y avait vraiment un réel enjeu sur le transport des marchandises en centre-ville. Est-ce que tu peux, avant de nous parler de ce que vous faites et de vos propositions, nous présenter un peu comment ça se passe, si jamais tu en as une idée, en matière de transport de marchandises sur ces zones de zones à faible émission à Marseille, et au-delà de cette zone, comment ça se passe, par où transitent les marchandises, qui les transporte, comment est-ce qu'on les récupère?
Ouais, ok, aujourd'hui la logistique, elle est organisée en une grande chaîne avec plusieurs maillons. Si vous commandez sur un site internet un produit manufacturé dans un autre continent, le produit sort d'usine. Ensuite, il est acheminé généralement en aéroport. Le produit va dans l'avion. L'avion arrive en Europe. Ensuite, il est dispatché. Donc, il est amené à d'autres endroits. Donc, généralement, ça arrive en Allemagne ou en Hollande. Et ensuite, on prend le camion. On a ou l'avion. On arrive à Lyon ou à Vitrolles. Et ensuite, on a du coup le moment où le camion part de Vitrolles et va livrer la rue Saint-Ferréol, par exemple. Mmh. Donc ça, c'est le fameux dernier maillon, le dernier kilomètre, qui, dans la chaîne logistique, coûte le plus cher. Aujourd'hui, on considère sur les territoires denses, sur les métropoles françaises, on considère qu'un véhicule sur quatre se déplace pour des besoins de livraison. D'accord. Donc, en fait, quand vous regardez autour de vous, comptez les voitures qu'il y a, généralement, il y en a une sur quatre, c'est pour livrer quelque chose. Donc ça représente quand même un flux de véhicules assez fort, avec toutes les externalités négatives que ça engendre, donc pollution, stationnement, bouchons, bruit, accidentologie. Et du coup, c'est quand même une part du trafic assez importante. Et donc tout l'idée, c'est comment on essaye de limiter les véhicules motorisés dans des territoires très denses, donc dans les centres-villes. Il y a aussi un enjeu sur la qualité de l'air. Alors, ça dépend un peu des études et des polluants qu'on prend, mais on a entre un quart et un tiers, en gros, des émissions de gaz à effet de serre qui sont directement liées à l'activité de logistique. Donc, en fait, apporter une solution qui va être aussi efficace en termes de colis déplacés ou de marchandises déplacées, qui est non polluante, non bruyante et qui va prendre moins de place sur la voirie, c'est tout bénef en fait pour pour un territoire.
Sachant que je ne suis pas sûr qu'on se rende toujours tout à fait compte de toute cette complexité de ce maillage qui permet d'affréter en fait tout ce qu'on consomme et tout ce qui est ensuite disponible dans les magasins et qui nous arrive dans les mains. Ouais. Et encore, on a de la chance, entre guillemets, à Marseille, contrairement à d'autres villes, parce que c'est visible. Les réseaux de fret qui rendent la ville possible sont visibles ici parce qu'on peut voir le fret ferroviaire, on peut voir le fret maritime avec le Grand Port, on voit les avions qui atterrissent à Marignane, on voit parfois quand il fait beau sur la Côte Bleue les usines au loin qui sont celles qui sont tout autour de l'étang de Berre. Et donc on a quand même une certaine idée de cette industrialisation qui rend une ville de 8500 âmes possible. Pardon, de 850 000 oui. âmes possibles uniquement à Marseille, sachant qu'après, il y a toute la métropole. C'est extrêmement dense. Et donc, tout en vélo là-dedans, comme tu disais, s'inscrit sur des questions de premier kilomètre et de dernier kilomètre, ainsi ensuite que de déménagement. C'est ça.
Oui. En fait, alors, tu parlais de la visibilité aussi du flux logistique. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que ce flux-là, avant 10 heures du matin, généralement, il a déjà été livré. C'est qu'en fait, les livreurs camions, aujourd'hui, ils embauchent les journées à 4h30, 5h du mat' pour aller livrer avant 10 heures. Donc, c'est vrai qu'on voit peu le flux logistique, parce que généralement, on dort. Mm-hmm. Bon, ça, c'est un élément sur la visibilité. Après, du coup, nous, on s'inscrit dans une démarche où l'idée, c'est pas de dire on veut plus de camions dans les villes. Par contre, c'est de dire que des colis ou des marchandises qui auraient pu être transportées différemment qu'en camion, bah, autant le faire différemment avec un véhicule plus adapté, un territoire plus dense. Et il y avait une étude qui était sortie sur Paris. Alors, c'était une étude faite par un grand transporteur et qui avait dit, genre, si on avait des hubs bien localisés, proximité du périphérique parisien. En gros, l'étude sortait qu'il y avait 67%, donc plus de deux tiers des flux de livraison Paris-Intramuros qui étaient éligibles à la cyclo-logistique. Donc on avait deux tiers des marchandises parisiennes livrées quotidiennement qui pouvaient être livrées en vélo. Et aujourd'hui, on est sur des proportions, on est sur 2-3% de flux qui est fait en logistique. Donc il y a un potentiel qui est quand même énorme. Bon là, on parle de Paris, certes, mais en fait, on a les mêmes problématiques sur notre territoire marseillais.
Bah, c'est parfait parce que ça m'invite à donc te poser cette question. Projetons-nous à Marseille en 2040, dans une ville qui a rendu la cyclo-logistique beaucoup plus dense. Vous êtes passé à l'échelle, vous avez des concurrents, mais t'en es content. Comment est-ce que ça serait possible en termes de quelles seraient les routes, quels seraient les différents canaux par lesquels vous pourriez vous mouvoir, où est-ce que vous iriez chercher la marchandise, ces différents hubs dont tu parlais qui seraient plus localisés, où est-ce qu'ils se situeraient, dans quel écosystème tu te verrais évoluer dans une ville qui aurait réussi cette transition-là?
Ouais, alors ça me fait réfléchir à plein de choses, mais bon, si on parle purement logistique urbaine, l'idéal, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle des micro-hubs. Ou alors dans le langage, ils appellent ça des ELP, espaces logistiques de proximité, ou ELU, espaces logistiques urbains. Mm-hmm. En gros, c'est des petits espaces entrepôts qui sont à proximité immédiate des centres-villes. Donc typiquement, nous, ça pourrait être des micro-hubs qui sont placés juste à la frontière de la zone à faible émission. Mm-hmm. Et où les camions, en fait, partiraient de Vitrolles. Parce que bon, le camion, on peut mettre des tonnes de marchandises quand même dans son ouais. véhicule. Donc, il part avec sa tonne de marchandises de Vitrolles. Il arrive au hub de cyclo-logistique qui fait 100-200 mètres carrés, un petit entrepôt. Il va décharger toute sa marchandise et ensuite, les vélos partent de ce hub et vont livrer le centre-ville. Et ça, en fait, des petits hubs comme ça, on pourrait en imaginer une dizaine qui sont vraiment implantés sur la frontière zone à faible émission. Et on va pouvoir faire la fameuse, ce qu'on appelle la rupture de charge, c'est quand on change de véhicule. Donc quand la marchandise elle passe de ton semi-remorque à un véhicule plus léger ou à carrément un vélo. Et donc on peut faire cette rupture de charge ici. Alors la rupture de charge, elle prend du temps, elle coûte cher. Mais c'est du temps que nous, après, on va regagner, puisque en fait, en vélo, on va aller plus vite dans le centre-ville. Donc si tu compares toute la chaîne depuis Vitrolles, le professionnel de la logistique, il peut s'y retrouver. Et du coup, ça lui évite, lui, d'envoyer des camions, des poids lourds dans le centre-ville, qu'ils soient bloqués rue Paradis ou rue Sainte, voilà, pour donner deux exemples où ça bloque souvent tous les jours. À la place, on aurait des vélos. Ouais, ce serait cool.
C'est intéressant cette idée de micro-hub parce que ça fait un écho immédiat avec une idée qui avait été avancée par David Benahim que nous avons reçu tout début du mois de janvier sur, qui parlait de son projet de permaculture industrielle à Merma où son idée à lui, c'est de créer pas des micro-hubs, mais en fait des petits espaces manufacturés un peu partout sur la ville qui permettent de réorganiser la ville du quart d'heure avec la possibilité de trouver un emploi et de pouvoir construire une partie de ce dont chacun, chacune a besoin à proximité de là où il se trouve et d'avec ces différents espaces dits multimodaux de pouvoir répondre à ces différents besoins. Et donc ton idée viendrait un peu se marier avec la sienne en se disant bah, typiquement, je ne sais pas, chaque arrondissement pourrait compter entre un ou deux de ces hubs-là où il pourrait y avoir à la fois une petite manufacture et un espace qui serait un espace de stockage pour toutes ces marchandises qui ensuite seraient à relivrer en vélo. Qu'est-ce que ça t'évoque?
Bah, en fait, mutualiser des activités, c'est toujours intéressant parce qu'on va réduire les coûts logistiques. Bon, moi, je vais surtout te parler de la logistique, c'est là où
bien sûr
je m'y connais le mieux, mais typiquement, c'est vrai que nous, déjà, dans notre espace, on partage avec un autre acteur qui s'appelle Les Alchimistes, qui est un acteur de collecte de déchets alimentaires sur le territoire. Et c'est vrai que partager le même espace, nous, on ramène la marchandise, donc le déchet, chez nous, mais chez nous, c'est chez eux. Donc, en fait, là, on est dans une logique d'optimisation des coûts. Après, bon, on parle là de logistique, mais nous, par exemple, on a commencé à aménager un atelier cycle, du coup, pour entretenir notre flotte. Cet atelier cycle, il nous sert à nous, mais il pourrait servir à d'autres usages. Pas forcément professionnels, mais... voilà, après, tu parlais d'activités de fabrication, de manufacture et tout ça. C'est vrai que c'est souvent des activités qui, après, ont des besoins de livraison. Donc, si l'espace de stockage est en effet à proximité immédiate de la flotte de véhicules qui va les livrer, on est toujours dans une logique d'optimisation des coûts. Donc, en fait, c'est tout bénef pour la personne qui livre, pour la personne qui fabrique. Donc, ouais, voilà.
Et on aura l'occasion d'en rediscuter juste après la respiration musicale, Thomas, de Tout en vélo, reprécisons-le pour celles et ceux qui nous prennent en cours de route. Bon, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est absolument passionnant et donc on en parlera juste après cette respiration. Je te laisse nous présenter ce que tu as décidé de nous faire écouter.
Alors, c'est une chanson qui s'appelle Cat Lady du groupe Funk. Alors, je ne sais pas si je prononce bien Funk. Ouais, bon. En fait, j'ai mis cette musique parce que c'est une musique qui me détend quand je suis au travail. Et c'est vrai que quand tu livres, parfois, tu peux passer un peu de temps sur la route. Et c'est une musique qui va accompagner un peu la livraison et moi qui me mets dans un bon état d'esprit pour livrer.
Ce qui est bien, c'est que tu nous donnes là une possibilité de continuer finalement à vivre ce que tu nous dis. Mais plutôt que d'être dans la pensée, là, on est plus dans le ressenti. Dans le corps et dans les émotions. À tout de suite. Thank you. Nous sommes de retour sur Radio Galère, sur le 88.4, dans l'émission Écoforum, qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions environnementales et solidaires à Marseille. Toujours en direct de 19h à 20h avec Thomas Croiset de Tout en Vélo. Et pour vous retracer un petit peu le fil de notre réflexion depuis le début de cette émission, nous avons d'abord présenté ton parcours, Thomas, avant de présenter de façon un petit peu générale les différentes activités de Tout en Vélo, avant de nous projeter dans des imaginaires futurs et aussi déjà présents de possibles d'une société plus résiliente à Marseille et ailleurs, en parlant de mobilité douce avant, un peu plus tard, de parler de la question du travail. Et nous avons été coupés d'une certaine façon par cette musique que tu écoutes lorsque tu es au travail avant la pause. Et je te laisse un petit peu reprendre sur la mobilité et puis le vélo. Tu voulais parler des différents acteurs avec qui vous travaillez là-dessus.
Oui, en fait, sur l'aspect vélo, tu parlais tout à l'heure de Marseille 2040. Comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer pour optimiser les flux de livraison, mais c'est vrai que la première idée qui me vient en tête en tant que cycliste, ce serait genre en 2040, ce serait bien que je puisse aller au Good. Ah ouais, je suis pas assez prêt. Ah ouais, attends, c'est bon comme ça. Ok, pardon. Ouais, je me disais en 2040, ce serait bien que je puisse aller circuler en vélo, aller jusqu'au Good de manière sécurisée, mais genre sur tout le trajet, sur 100% du trajet, en partant du centre-ville, que j'ai pas à me poser de questions angle mort, attention lui, son clignotant. Enfin voilà, ça ce serait un peu un idéal, un peu un petit rêve. Si des élus nous entendent aller au Good à vélo en sécurisé, ouais, ça, ce serait assez cool.
Alors les élus qui nous écoutent peut-être, ils ont aussi sans doute besoin de savoir quelles sont les propositions que tu pourrais faire pour qu'il y ait un peu une forme de manuel clé en main en disant voilà comment est-ce qu'on peut parvenir à cet objectif-là.
Il y a une étude qui a été faite qui s'appelle le baromètre des villes cyclables, qui est fait tous les 2 ans, qui classe les territoires en fonction de leur cyclabilité, donc la facilité de se déplacer à vélo sur les territoires. Bon, 2019-2021, on est bon dernier. C'est pas une surprise, Marseille est la pire ville de France pour faire du vélo, donc on est 40e sur 40. Wow. Mais du coup, au sein de ce baromètre, donc, qui est une étude participative où il y a plus de 150 000 réponses, je crois, tous les 2 ans, donc c'est vraiment une base de données très très dense, et on demande aux usagers du vélo de pointer ce qu'on appelle les points noirs. Donc les points noirs, c'est vraiment les endroits, les carrefours qu'on considère comme les plus dangereux où il faudrait absolument un aménagement. Et partir déjà sur ces priorités, ces points noirs, je pense que c'est une bonne base de travail, sachant que, attention, hein, les élus, ils ont il y a un plan de développement, il y a un schéma métropolitain, hein, du développement du vélo. Voilà, qui est assez ambitieux, avec des véloroutes, hein, comme ça se fait sur, enfin des autoroutes à vélo, si je peux me permettre le terme, comme ça se fait sur d'autres territoires. Donc ça, oui, c'est des choses, c'est des stratégies qui sont très intéressantes. Après, voilà, il faut réussir à les mettre en place, ça c'est une autre question.
Donc là, tu nous parlais de la façon de se projeter pour aller jusqu'au Good en 2040, mais on parlait aussi des différents acteurs avec lesquels, en fait, vous prenez la route. Ou les grands acteurs tout court, ça serait intéressant de savoir dans quel écosystème vous vous plongez. Quand on parle de dernier kilomètre, de premier kilomètre, ça veut dire que dans les chaînes logistiques, il y a des personnes avant, il y a des personnes après. Tout à l'heure, tu disais aussi que vous partagez vos locaux, que vous mutualisiez avec les alchimistes. Voilà. Qui sont les personnes, en fait, avec qui vous construisez cet écosystème qui pourrait nous amener à cette projection de Marseille en 2040?
Alors aujourd'hui, on commence à créer un écosystème en essayant de mutualiser des activités où les besoins en cyclo-logistique vont répondre aux besoins de livraison. Donc oui, il y a les alchimistes avec qui on travaille beaucoup. Il y a une société aussi qui s'appelle Transmassilia. On va faire de la collecte de déchets pour eux, donc qui est aussi une scope. Après, en fait, en termes de mutualisation, toute structure qui a des besoins logistiques, on peut imaginer une mutualisation possible. Donc en fait, y a l'écosystème dans lequel on peut s'intégrer, il est très très vaste. Donc il y a des logiques, sur l'alimentaire, sur la livraison de colis, sur l'écosystème vélo. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Nous, on est un peu au début de cette démarche-là.
Ouais.
Après, sur l'écosystème vélo, Il y a un truc qui... Ça commence à se structurer pas mal, parce que du coup, quand on parle d'écosystème vélo, en tout cas des professionnels à vélo, on a les cyclo-logisticiens comme nous, on n'est pas les seuls dans la ville. On a tous les réparateurs, on a tous les loueurs, on a les gens qui vont proposer une offre touristique pour se déplacer à vélo. Il y a les bureaux d'études, il y a les élus spécialisés mobilité. Voilà. En fait, on est en train, le système, l'écosystème vélo marseillais, hein, en train de se structurer. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Sachez d'ailleurs qu'il y a une espèce de mouvement qui est en train de se créer, inter-association de vélos, qui est menée par notamment Marseille en transition, qui se trouve à la base, et donc qui cherche à proposer la décarbonation de la ville de Marseille, notamment pour 2030-2040. Donc si des personnes qui nous écoutent, qui font partie de cet écosystème ou qui souhaitent le rejoindre, nous écoutent, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. C'est aussi notre rôle à la radio que de faire toutes ces connexions. Et tout à l'heure, tu parlais des scopes et de ton écosystème peut-être un peu plus professionnel. Et ça nous permet d'aborder la dernière partie d'émission que nous voulions aborder avec toi, Thomas, qui est celle, on va dire, de la projection d'un imaginaire de travail, qui est celui dans lequel vous travaillez en fait factuellement tous les jours. En scope, est-ce que tu peux nous présenter un peu la structure juridique et puis les implications concrètes que cela a pour chacune des personnes qui y travaillent?
Ouais. Donc scope, société coopérative, c'est un statut juridique particulier qui se définit par trois réglementations spécifiques. Il y a un principe de démocratie dans l'entreprise, donc c'est-à-dire une personne, une voix, peu importe que tu aies mis 100 euros ou 100 000 euros au capital, tu auras le même poids aux décisions en Assemblée Générale. Donc, principe de démocratie dans l'entreprise. Il y a le principe de répartition de la valeur. On a des règles qu'on doit respecter. On a une année où du coup, on est excédentaire, on va faire du bénéfice. Il y a des règles de répartition du bénéfice. La logique, hein, c'est plutôt de distribuer le bénéfice tout d'abord aux gens qui ont permis à la structure de faire du bénéfice, c'est-à-dire les salariés. Ensuite, on va rémunérer... On va laisser des sous dans la boîte, ce qu'on appelle de la mise c'est de la trésorerie, quoi. Et enfin, on n'est pas obligé de le faire aussi, on va rémunérer les actionnaires et donc rémunérer le capital. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et troisième principe, il faut que l'outil de travail, donc la 51% du capital, soit détenu par les salariés. C'est-à-dire qu'une SCOP ne peut pas être détenue majoritairement par des associés qui ne sont pas salariés. C'est un outil très intéressant dans le sens où, en fait, ce sont les salariés qui sont propriétaires de leur outil de travail. En SCOP, on a un double rôle, une double casquette. Donc déjà, en SCOP, les salariés sont amenés à devenir associés, donc à prendre des parts au capital de la structure et donc de participer aux décisions en Assemblée Générale. Donc c'est souvent des décisions stratégiques, d'ailleurs, qui sont décidées en Assemblée Générale. Je ne sais plus où je voulais en venir.
Tu disais que tes salariés étaient détenteurs de leur outil de travail et que ça leur permettait de faire partie de la prise de ces décisions et de rentrer en tant qu'actionnaire.
Oui, tout à fait. Et oui, du coup, on a cette fameuse double casquette de salarié associé. Donc en fait, on est salarié, on est rémunéré pour un travail qu'on va produire au quotidien, mais on est aussi associé dans le sens où on va participer de manière active et égalitaire aux décisions stratégiques de l'entreprise. Donc c'est vraiment un outil, c'est un peu une plateforme, si tu veux, qui est à disposition des salariés qui s'approprient en devenant associés. Et en fait, du coup, c'est eux-mêmes qui décident de vers où on va, avec quel client on travaille, à quel prix, est-ce qu'on travaille avec Amazon ou pas. Tu vois, c'est ce genre de discussion qui se décide entre associés.
Quand on parle de transition, on a toujours le volet dit écologique et on l'a abordé un peu en amont avec tout ce qui concernait la mobilité douce. Et puis ensuite, la question de la justice sociale qui m'a l'air d'être celle que vous poussez avec ces trois principaux points, valeurs cardinales d'une SCOP. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en fait aussi quelle va être l'implication pour toi qui va être... Le gérant, je ne sais pas d'ailleurs quel est le titre que tu te donnes.
Oui, c'est gérant, dit gérant en scope. Ouais. Gérant ou co-gérant, du coup, on peut être deux à faire cette activité. Alors, la scope, ce que ça va impliquer pour le gérant, c'est que le gérant doit rendre des comptes en assemblée générale, donc par rapport du coup aux chiffres, aux résultats de l'année. Donc du coup, on va critiquer s'il a bien mis en place la stratégie décidée entre associés. Et donc il y a un pouvoir de révocation du gérant d'ailleurs en assemblée générale. Mm-hmm. Donc, c'est un contre-pouvoir, si tu veux, qui fait que le gérant se doit d'avoir une gérance qui se veut transparente et démocratique. C'est-à-dire que en fait, je suis pas moi juste avec mes comptes et mes chiffres et à prendre des décisions seul. Ça, c'est des trucs que je dois partager en fait avec les associés pour qu'on prenne des décisions ensemble. Mmh. Ce qui fait que oui, on a une logique quand même de transparence qui est très forte nous. Alors au sein de Tout en Vélo Marseille. Après, ça se traduit. On a quand même des rapports hiérarchiques au sein de notre structure dans le sens. Ouais. Pour de l'activité opérationnelle pure. C'est-à-dire que le responsable d'exploitation, par exemple, donne des directives à un gars qui est sur le vélo. Mais en fait, ce rôle peut être tournant. C'est-à-dire, à un moment où je suis gérant 80% de mon temps, mais 20% de mon temps, je suis sur le vélo. Donc là, je prends mes directives du responsable d'exploitation. Et en fait, c'est lui qui sait mieux que moi sur cette tâche-là. Donc en fait, je le suis.
Est-ce qu'il y a une volonté un peu, comme on dit, holacratique ou sociocratique dans la façon d'organiser le pouvoir, ou finalement est-ce que là vous êtes sur quelque chose, on va dire, avec une certaine pyramide qui a une volonté d'approche sociale et juste, malgré le fait que chacun s'inscrit dans cette pyramide, chacun chacune?
Alors moi je vais donner mon point de vue personnel là-dessus. Il y a vraiment un enjeu de respect du travail salarié. Mmh. Dans notre structure. C'est-à-dire qu'on a quand même un métier qui est assez rude, donc de livrer des colis. Il y a beaucoup de... On pédale, c'est physique, on pédale, on fait beaucoup de manutention. On est sur un territoire, on est soumis au bon vouloir des autres usagers de la voirie. Donc c'est quand même un métier qui est à risque. Et du coup, c'est très important, je trouve, qu'il y ait une écoute très forte de la réalité, du quotidien de la personne qui est sur le vélo. Ouais. On a eu par exemple des expériences où on avait des clients qui parfois nous demandaient: mais pourquoi tu veux pas aller livrer en haut de Vauban une palette de 250 kilos, tu veux pas travailler pour moi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait je peux pas le faire avec mon vélo, je peux pas le faire, donc on le fait différemment, peut-être qu'on le fait en 2-3 fois, mais en fait le gars, vu qu'il avait jamais mis son derrière sur une selle pour aller livrer, en fait il comprenait pas ça. Et je pense que la structure de Scop, d'autres structures peut-être peuvent permettre ça, mais en tout cas la Scop incite vraiment à ça, et c'est vraiment cette idée de respect du travail salarié. Et puis je complète aussi, parce que en fait il faut pas oublier que en fait c'est les gars sur le terrain, enfin les personnes sur le terrain qui rapportent le chiffre d'affaires de la structure. Si tu traites mal les personnes donc en production, donc qui sont en train de livrer, ben en fait il y a pas de chiffre qui rentre, le chiffre d'affaires dépend d'eux. Donc à un moment il faut retrouver un système où on arrive à bien se traiter, quoi. Parce que, alors surtout dans le milieu de la livraison, où il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés, notamment bon, l'ubérisation, tu vois, c'est le truc vraiment extrême. Nous l'idée c'est quand même de proposer un modèle alternatif à ça, avec le salariat et le sociétariat des livreurs.
Oui, ça fait écho notamment à un invité qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, Opéra Mundi, et qui, sur leur programmation cette année, mettent en avant le prendre soin. Et du coup, ça me fait penser aussi à ça, qui est super intéressant, de prendre soin de son équipe, mais aussi de véhiculer cette valeur de prendre soin aussi des gens qu'on fait travailler par votre clientèle, de mettre ça en avant. Vous, comment vous prenez soin de votre équipe? J'imagine déjà avec l'équipement que vous leur donnez pour qu'ils puissent livrer. Vous, tu disais que vous avez des vélos à la pointe.
On a des...
Est-ce
qu'il
y a autre chose aussi qui vous permet de prendre soin de ces personnes, de vos coéquipiers?
Ouais, bah, en fait, c'est surtout une question d'écoute dans nos métiers. C'est-à-dire que parfois, une personne va te dire, en fait, là, je ne vais pas réussir à livrer, par exemple. Il devait livrer avant midi un client. Là, je ne vais pas y arriver pour X ou Y raison. Souvent, c'est une casse matérielle. Parfois, il s'est pris une micro-agression avant. Du coup, il est tendu. Ça, c'est écouter ça et mettre des solutions alternatives en place. Et généralement, ça marche bien parce qu'on arrive à... On a quand même instauré un rapport de confiance entre entre les salariés qui sont au sein de la structure. Et du coup, on n'est pas allé dire « Ah bon, tu ne peux pas livrer avant midi, mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne peux pas le faire ?» Voilà, on fait confiance. Et ça, je pense que la SCOP permet beaucoup ça, parce qu'en plus, au-delà des obligations légales, mais en fait, du coup, on s'oblige à se réunir à des réunions d'équipe qui sont hebdomadaires, où du coup, on va parler de sujets opérationnels, stratégiques, mm-hmm. et où, en fait, on va être dans l'échange le plus possible. Et oui, bon, après, pour la protection, on a les EPI réglementaires. On a une superbe machine à café payée par les alchimistes. Merci Alan, d'ailleurs. Et voilà, ça fait le taf.
Et est-ce que dans votre équipe, donc vous êtes 6, tu disais, c'est ça?
Ouais, on est 6 à
6. Est-ce qu'il y a des femmes ou vous êtes uniquement des hommes?
On est 5 hommes et une femme. Donc oui, on a un peu de boulot à faire en termes de parité, ça c'est sûr. Ouais.
Et alors, pour continuer cette question de la dite ouverture, en fait, là, on parle dans ce thème-là de la scope du travail et de l'imaginaire du travail d'aujourd'hui et de demain. Tout à l'heure, je t'ai posé en matière de mobilité la façon dont tu imaginais Marseille en 2040. Je vais te poser la même question en matière de travail, alors pas forcément à Marseille. Comment est-ce que tu projettes un monde où les scopes seraient devenues la norme? Est-ce que tu penses déjà que c'est possible que cette façon de travailler puisse être la norme de demain? Et si c'est le cas, comment y parvenir et comment ça s'organiserait?
Il faut changer les gens aux manettes déjà pour y parvenir. Après, bah, les scopes, ce qui est intéressant, alors, bah, j'ai pas trop des chiffres, mais en tout cas, ce qu'on appelle les entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc en tant que scope, on en fait partie. On se rend compte que c'est un secteur qui se développe de plus en plus, puisque en fait, c'est des questions qui reviennent de plus en plus dans nos sociétés, où du coup, on a beaucoup automatisé, ou toutes les avancées technologiques qu'il y a eu. Et dans la livraison, c'est dingue maintenant avec les applications, ce qu'on sait faire. Enfin, on sait gérer, tracer en direct les gens sur la route. On sait dire au client presque à 5 minutes près quand est-ce que son colis sera livré. C'est quand même incroyable comme qualité de service. Malgré ça, on a toujours des problématiques de mal-être au travail ou dans des métiers physiques aussi, où des gens à 50 ans peuvent être cassés. Donc, j'ose croire, en tout cas, peut-être naïvement, j'en sais rien, en fait, non, je pense que si, ça peut marcher, mais que oui, les scopes sont une réponse à ça, à des métiers de terrain qui sont rudes et où on va essayer de limiter un peu limiter un peu le fossé qui peut exister parfois entre des gens très opérationnels sur le terrain et puis des décisionnaires un peu coupés de la réalité de terrain. Ça, je pense que les scopes sont vraiment une réponse à ça, oui. Parce que de toute façon, les décisionnaires doivent rendre des comptes et que les décisionnaires sont les salariés, les gens sur le terrain.
Et alors, pour permettre cet aspect très concret dont tu parles et éviter cette coupure, là, c'est la toute dernière question que je vais te poser puisqu'on va bientôt rendre l'antenne. Est-ce que tu as des annonces à faire de personnes pour vous rejoindre ou qui pourraient vous trouver voilà, c'est le moment où je te laisse un peu la parole, antenne libre pour...
Je vais faire ma petite pub, c'est gentil. Alors du coup, bon, pour le recrutement, là, malheureusement, on n'est pas dans une phase où on a trop d'activités, donc on ne recrute pas. Mais par contre, dans la logistique, ça fluctue de mois en mois. Donc si des personnes sont intéressées par le métier de cyclo-logisticien, il faut qu'ils nous envoient un CV par mail. Et puis nous, on étudie les candidatures et peut-être que si l'activité revient... si l'activité monte, du coup, on pourra recruter. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que si vous avez un besoin de transport, un besoin de déménagement, et que vous ne voulez pas vous embêter à louer un camion, une voiture, n'hésitez pas à passer par Tout en Vélo Marseille, puisqu'on a une offre où on va pouvoir venir chez vous à partir de 50 euros pour déplacer un meuble. Donc voilà, parfois pour un petit billet, on peut vous simplifier la vie pas mal. Si vous avez un T4 à déménager, on saura le faire. On ne fait plus les pianos, par contre, parce que ça, c'est trop compliqué. Mais voilà, tous les gens qui n'ont pas de piano et qui veulent déménager, n'hésitez pas à nous contacter.
Voilà, c'est entendu. Merci beaucoup, Thomas Croisé, de Tout en Vélo.
Merci à vous pour l'invitation.
C'était fascinant. Je pense que Chloé, tu dois partager avec moi ce même ressenti.
Ouais, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup.
Et donc, nous rendons l'antenne et nous te renvoyons tes activités qui viennent s'inscrire vraiment dans ce territoire marseillais que nous traçons chaque semaine de ces différents acteurs et actrices qui viennent, comme toi, mailler sa résilience d'aujourd'hui et de demain. Et on vous souhaite une excellente soirée.
Merci, ciao. Keep the young air, so it's up.